dans la première partie de ce débat consacré au monde chinois de Jacques Gernet, récemment paru chez Armand Collin, débat qui groupe autour de notre micro Jacques Gernet, Michel Cartier et Denis Lombard, nous avons évoqué quelques-uns des grands problèmes, des grandes données qui font l'originalité du monde chinois et de l'histoire chinoise. Bien que l'ouvrage de Jacques Gernet, comme il l'a ici expliqué, ne soit pas fondé sur l'histoire événementielle, il raconte aussi, en l'expliquant, l'évolution de ce monde chinois, et je pense que nous pourrions maintenant consacrer cette seconde partie de notre débat à cette évolution. Et peut-être pourrions-nous, comme fil conducteur de ce débat, choisir l'un de ceux sur lesquels Jacques Gernet a le plus insisté, qui est l'importance des techniques dans ce monde chinois. Je crois que, Jacques Gernet, vous employez quelque part l'idée de civilisation technicienne, en tout cas l'importance des techniques, et on peut dire, me semble-t-il, sans trop vous trahir, que les temps forts de l'histoire de ce monde chinois s'articulent sur des périodes de diffusion et de perfectionnement, sinon d'invention des techniques.
Oui, Jacques Gernet. C'est en effet le cas, bien que ce ne soit pas restreint de façon trop uniforme et trop stricte aux techniques.
Bien entendu.
Ça va de soi. Mais il m'a semblé que, en effet, certains développements de l'histoire des techniques ont amené, ou en tout cas aidé très sérieusement, à des transformations fondamentales de la démographie, du système politique, du système social. Je crois qu'il y a une espèce d'idée fausse qui s'est imposée du fait que on a connu surtout de la Chine la plus récente, c'est-à-dire celle des grandes catastrophes, des guerres du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle. Et on a vu dans cette Chine une Chine essentiellement rurale. Or, pour toutes les populations qui ont connu la Chine antérieurement, les deux traits qui étaient les plus caractéristiques du monde chinois, c'était d'une part son organisation politique, qui était considérée comme remarquable, extrêmement perfectionnée, très en avance sur tout ce qu'on a connu ailleurs dans l'histoire du monde, et d'autre part, des qualités de technicien. Les oui. Chinois apparaissent comme des techniciens.
Si vous me permettez de glisser une réflexion d'occidentaliste et de médiéviste, c'est précisément la Chine de Marco Polo. Bien entendu, une expérience particulière que celle de ce marchand qui voit un certain monde chinois lié à ce qui l'intéresse dans ses affaires. Mais c'est le monde qu'il voit. C'est le monde d'une organisation politique à la fois forte et originale, et par ailleurs, un monde de techniques très avancées, depuis justement les techniques commerciales, le papier-monnaie, jusqu'à un monde où le monde rural est relativement absent, et pas seulement parce que Marco Polo ne s'y intéresse pas beaucoup, parce qu'il semble effectivement être à l'arrière-plan de l'histoire chinoise pendant longtemps. Oui. Et là, je crois que c'est une des grandes nouveautés de votre ouvrage que de renverser cette idée trop courante.
Du point de vue du volume des échanges aussi, c'est ce qui a frappé surtout Marco Polo en visitant les villes et les ports chinois. Ces quantités fantastiques de produits, de bateaux, etc. Évidemment, il y a beaucoup d'exagération chez Marco Polo, qui est un petit peu marseillais, mais il y a quand même du vrai, il y a quand même beaucoup de vrai, et c'est l'étonnement, l'étonnement absolument extraordinaire d'un occidental, d'un homme du Moyen-Âge d'Europe qui arrive en Chine et qui voit un monde extrêmement actif. Et
oui, surtout à un moment où, comme vous le rappelez, ce qu'il y avait de brillant au Moyen-Âge, c'était le monde chinois et l'islam. Et ceci a duré pendant longtemps.
D'ailleurs, n'oubliez pas que cette image de la Chine subsiste très longtemps, parce que si on se rapporte à la description qui est donnée du commerce chinois dans le dictionnaire du commerce de Savary au milieu du 18e siècle, on voit encore les Européens caractériser le monde chinois par l'abondance des échanges, la multiplicité, l'intensité du commerce.
Oui, à propos des techniques. C'est une idée qui a disparu au XIXe siècle, mais je crois c'est que jusqu'à la fin du XVIIIe, on avait vis-à-vis de la Chine cette admiration dont vous parliez tout à l'heure.
Oui. Jacques Gernet, vous avez ajouté quelque chose.
Je pense qu'il y a, un petit détail, un fait sur lequel on pourrait attirer spécialement l'attention. C'est que la Chine, pour certains géographes modernes, c'est le cas de Gourou, le monde chinois a été défini comme civilisation du végétal. Or, il se trouve que ce sont les Chinois qui, les premiers, ont découvert la fonte du fer, enfin, ont pu fondre du fer au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, ont fondu donc des objets en fer, sont arrivés assez vite à l'époque des Han, c'est-à-dire au 2e siècle avant, dès le 2e, 1er siècle avant, à fabriquer des aciers. Donc, alors que l'Occident n'a connu sa première fonte de fer que au 13e siècle, je crois, au 13e,
oui, parfaitement.
13e siècle, 14e, 14e siècle, et que toutes les civilisations modernes, le développement moderne industriel occidental a été fondé sur l'acier. Alors c'est très amusant de voir que c'est la Chine finalement qui a fini par passer pour le pays le plus...
Et oui, avance, décalage, puis retournement, je crois que nous aurons l'occasion,
c'est un problème,
l'occasion d'en reparler.
Maintenant, il y a tout de même un peu un paradoxe, c'est que la Chine a été en avance, en particulier dans les domaines de métallurgie, dès l'âge du bronze d'ailleurs. Mais qu'en même temps, la Chine semble être une culture où les objets de métal ont été relativement peu diffusés. Et je me souviens d'un article assez intéressant de Jerome Chen, un Chinois qui travaille en Angleterre, sur la production du cuivre à l'époque Song, qui est une époque de grand développement économique, et où, en polémiquant un peu contre les idées de son collègue, l'Américain Hartwell, Jerome Chen explique en particulier, il explique l'absence d'un démarrage industriel par le manque de matières premières, une certaine pauvreté
des mines. De ce point de vue-là, de quoi dispose l'espace chinois du point de vue des mines?
Écoutez, il est en effet relativement mal loti. Et surtout, les exploitations ne semblent pas avoir été très systématiquement poursuivies.
Je ne sais pas si la carte des mines, c'était, disons, au XIe siècle, pour prendre un exemple, parce que je pense à une carte qui avait été faite justement par Balache, qui était parue dans les annales il y a déjà assez longtemps, et dont la disposition était très différente de la carte des mines qu'on peut avoir maintenant dans les ouvrages de géographie. Donc, je ne sais pas si on peut dire qu'il n'y avait pas de mines ou peu de mines à une époque ancienne.
Oui, oui. Maintenant, il y a quand même un fait qu'on devrait rappeler, qu'il faut rappeler, c'est que c'est la production systématique, la production en série d'objets agricoles au 4e siècle avant Jésus-Christ. Par exemple, dans l'état de Yen, c'est-à-dire la région de Pékin aujourd'hui, on produisait en série, on a retrouvé dans des fours, où il y avait une très grosse production d'outils agricoles.
Vous parlez donc maintenant du monde rural. Dans ce domaine, quels ont été les phénomènes les plus marquants du point de vue de l'évolution et du point de vue de l'histoire des techniques dans ses répercussions sur l'histoire générale?
Oui, mais je crois qu'on sépare de façon un petit peu trop artificielle l'agriculture d'une part et les autres techniques. En réalité, ça ne fait qu'un. La Chine a pu s'étendre, déblayer ses... mettre en valeur ces terres, je parle de la Chine du Nord, à ce moment-là il n'est question que de ça, dans l'Antiquité, à la fin de l'Antiquité, c'est-à-dire au 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, si elle a pu le faire, c'est grâce précisément à la fonte de fer qui a permis la production d'outils agricoles. Je crois que dans l'histoire de la démographie chinoise, il y a deux grandes périodes, principalement, qui se situent, mais on peut même dire trois, qui sont liées à l'histoire de l'agriculture. C'est d'une part ce développement qui se situe à la fin de l'Antiquité, qui amène à un peuplement de la Chine beaucoup plus important, puisqu'on on arrive à 56 millions pour l'empire des Han aux environs de l'ère chrétienne. Puis ensuite, le démarrage le perfectionnement de la riziculture. Perfectionnement de la riziculture qui s'est fait sentir, je pense, non seulement en Chine, mais dans tous les pays de l'Asie orientale. Il suffit de penser à la civilisation d'Angkor, au XIIe siècle, qui a son apogée à ce moment-là, à la civilisation des Song qui est à son apogée. Et c'est précisément ces 11e, 12e siècle qui marquent en Chine l'entrée de l'Asie orientale, dans l'Asie orientale, l'entrée de ces pays dans ce qu'on pourrait appeler les temps modernes. Les temps modernes parce qu'il y a toute une série d'inventions qui rappellent celles qui marqueront l'entrée des temps modernes en Occident à cette époque-là. En particulier, l'imprimerie, la poudre à canon,
la boussole. Oui.
La boussole.
Mais là encore, une chose qui m'a paru personnellement très frappante et où je crois vous redresserez des idées reçues, me semble-t-il, l'occidental, le riz est lié à l'histoire de l'Asie orientale et à l'histoire de la Chine depuis des temps immémoriaux. Or, vous avez bien montré que, en fait, l'extension de la riziculture est un phénomène relativement tardif, qui est un phénomène du premier millénaire de notre ère. Et en même temps, voilà encore une de ces correspondances que nous avons déjà évoquées, effectivement, bien entendu en termes différents, y compris en termes ruraux et techniques, cette période en Occident est aussi celle d'une révolution de l'agriculture, avec également un rôle de l'artisanat et de l'industrie, le développement du fer, la charrue avec soc en fer, etc., et une révolution alimentaire. En d'autres termes, mais avec le même parallélisme. Denis Lombard, vous voulez...
Non, je voulais simplement ajouter quelque chose. Je me souviens d'un texte du XVe siècle qui présente un personnage originaire du sud de la Chine, qui est un fonctionnaire, qui est en service à Pékin, et qui justement va dans une région de Pékin où on vient juste d'introduire les rizières, pour justement sentir au moment de la floraison l'odeur de la fleur de riz qui lui rappelle son pays natal. Or, quand on sait l'importance du riz maintenant dans le nord de la Chine, et qu'on voit qu'à cette époque c'était une chose nouvelle qui venait d'être introduite, ça permet de rétablir justement l'aspect tardif de cet apport.
Je crois que vous avez un peu distingué, c'est que le riz est connu depuis très longtemps, enfin je crois depuis l'Antiquité, mais que c'est resté une céréale noble, destinée surtout aux consommations sacrificielles, et qui est réservé à la classe dirigeante, et surtout qui n'est pas cultivé avec irrigation, mais qui est cultivé souvent sous forme de culture sèche ou culture de terrain inondable naturellement.
Et sans repiquage.
Ce qui a été très important, c'est qu'on le perçoit quand on suit l'évolution de la population. Par exemple, c'est à partir du 1er siècle, enfin au 7e siècle environ, le sud de la Chine stagne avec une population peut-être de 7 à 10 millions, et à partir de 700, on commence à avoir une montée spectaculaire qui fait passer la population de 10 millions à 50 ou 60 millions au 13e siècle.
Oui, par conséquent, phénomène que l'on voit habituellement dans les révolutions des techniques, il y a, c'est ça, un fait technique très important, le repiquage, le développement d'une riziculture inondée artificiellement, avec donc des techniques d'irrigation, et des aspects à la fois sociaux et mentaux, c'est-à-dire un type d'alimentation qui cesse d'être une alimentation aristocratique, noble, pour devenir populaire.
Et alors, je crois, là, il faudrait insister sur le fait que la riziculture et le repiquage permettent des rendements, alors sans comparaison avec les rendements de l'Europe de l'époque. Par exemple, un rapport semence-moisson de l'ordre de 1 à 10, couramment, ce qui est impensable.
Tout à fait extraordinaire, oui. Au XIVe siècle, sur quelques domaines très remarquablement exploités, en Flandre par exemple, on est arrivé jusqu'à des rendements de 1 à 12, mais c'est très exceptionnel. Mais normalement, c'est 1 à 3 ou 4, n'est-ce pas?
Alors que les textes d'agronomes chinois, ça, on considérait un rapport d'1 à 10 comme assez normal.
Ouais.
Vous parliez des aspects mentaux tout à l'heure, je crois que c'est très important, car la riziculture est une culture collective par principe. On doit commencer la moisson au moment, entretenir les digues en même temps. Donc je crois que c'est un aspect à ne pas négliger pour l'histoire de la Chine dans son ensemble.
Bien sûr. Jacques Gernet, vous vouliez parler d'une troisième période, je crois. Je ne sais pas si la question que j'ai envie de poser entre dans cette troisième période. Je la pose, vous me reprendrez si je tombe mal. En Occident, pendant cette période qui est médiévale, et vous me permettez de m'arrêter encore un instant, il y a un phénomène qui est tout à fait frappant, c'est une imbrication entre les phénomènes économiques et les phénomènes religieux. En particulier, le rôle joué par les ordres religieux dans le progrès économique, même si cela a été un petit peu exagéré, pour diverses raisons, en particulier parce que les ordres monastiques nous ont laissé de meilleures archives que les populations laïques, et que l'on a eu l'impression qu'ils avaient été les seuls entrepreneurs économiques de l'Occident. Il reste que c'est vrai, et qu'il y a eu une profonde imbrication. Est-ce qu'il y a eu aussi, par exemple, dans le bouddhisme, des aspects économiques importants?
Très certainement, mais ça, malheureusement, le parallélisme là ne peut guère s'établir avec l'Occident dans la mesure où la grande période du bouddhisme prend fin précisément avec le début des temps, ce qu'on pourrait appeler le début des temps modernes, c'est-à-dire 11e, 12e siècle en Chine.
Oui. Alors donc là, il y a un tel décalage.
Il y a un grand décalage, mais tous les problèmes d'insertion des communautés bouddhistes, du phénomène bouddhique dans la société chinoise et dans le système politique chinois est un problème extrêmement important. Et je pense aussi du point de vue économique, parce que les communautés bouddhiques ont introduit en Chine des techniques de presse sur gage en particulier qui venaient de l'Inde.
Et alors la troisième période maintenant.
La troisième période, c'est ce qu'on pourrait appeler la grande révolution agricole des temps modernes, c'est celle qui se situe qui commence au XVIe siècle avec l'introduction des plantes américaines et qui amènera une transformation radicale de l'agriculture chinoise, si bien que l'agriculture chinoise du XXe siècle, même du début du XXe siècle ou du XIXe siècle, n'a absolument rien à voir avec l'agriculture chinoise de l'Antiquité. Et quand on parle des Chinois comme des agriculteurs qui ont toujours cultivé les mêmes lopins de terre, toujours selon les mêmes techniques, c'est une absurdité absolue, effarante, parce que toute une série de plantes américaines ont révolutionné l'agriculture chinoise, en particulier la patate douce, l'arachide, et le maïs au XXe siècle qui a fait des ravages effroyables du fait de la destruction des forêts, et ce qui a entraîné des inondations.
Oui, donc il n'y a pas eu seulement des transformations structurales, capitales, d'une période à l'autre, mais je suppose, d'après tout ce que vous venez de dire, que cette évolution des techniques est également liée à une très grande importance des communications, de façon générale. Échange, au sens le plus large du mot, commerce, au sens le plus précis. Michel Cartier, est-ce que je peux vous demander d'évoquer l'importance de ces communications, de ces échanges dans l'histoire du monde chinois, et peut-être particulièrement dans les périodes plus récentes, Moyen-Âge et temps moderne?
Mais en fait, il y a un problème qui se pose à ce point de vue, c'est... La Chine est un état d'une grande dimension, enfin, où il y a des échanges considérables. Et il faut d'abord distinguer entre échange extérieur, commerce extérieur, et le commerce intérieur. Je crois que c'est un pays à partir du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne, la Chine connaît des échanges intérieurs très considérables, un volume. Des échanges liés en particulier à la constitution d'un réseau de canaux et de voies navigables. Puisque, en fait, les transports par roues ou transports à d'autres bêtes n'ont jamais joué un rôle très important.
Système de canaux, là encore pour donner un repère chronologique, qui date essentiellement, si je me rappelle bien, du 6e, 7e siècle, n'est-ce pas, de notre ère, qui marque là encore une antériorité très importante, mais qui ne remonte pas à la nuit des temps.
Mais je crois qu'il y a un phénomène sur lequel on devrait insister, c'est que, mais d'une certaine mesure, enfin, une des limites au développement du commerce en Chine était sa dépendance des voies. voies de communication oui. et du réseau fluvial. Et là, je citais l'exemple de la production du sel. Alors, voilà, jusque vers le 7e ou 8e siècle, les grandes régions productrices de sel en Chine étaient la côte nord, la région de Shandong, la région de Tianjin, où le sel est facile à obtenir simplement par dessiccation de l'eau de mer. Et puis on voit une espèce de glissement, dire l'abandon progressif, enfin une décadence progressive de ces zones, au profit des zones du Bayangtze, enfin où l'exploitation du sel est plus difficile, du fait que la période où on peut faire évaporer l'eau de mer correspond à une période beaucoup plus pluvieuse, et où on est obligé donc de faire évaporer l'eau artificiellement, en la faisant évaporer dans des grands baquets. On peut penser que cette technique de production était en réalité plus coûteuse. Et on peut se demander pourquoi elle s'est maintenue. Je crois que la concentration de la production du sel s'est faite dans les régions du delta du Yangtze, de la vallée de la Huai, par exemple, essentiellement pour des raisons de commodité de transport. Mais la production du sel s'insère dans tout un système de navigation sur le Yangtze.
Oui, je crois qu'il y a là un phénomène général de l'histoire.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les chemins de fer ont permis de transformer complètement la situation. Et à partir du moment où les chemins de fer ont favorisé les transports nord-sud, alors que le réseau naturel de communication fluviale est un réseau qui favorise les transports est-ouest. Et alors, on voit immédiatement, dès la construction du chemin de fer nord-sud, une résurrection de toutes les salines du Nord. Ce qui explique que dans les premières décennies du 20e siècle, par exemple, c'est les salines sont revenues au nord de la Chine.
Ce que je voudrais surtout que l'on examine, c'est le problème des communications eurasiennes à travers le monde. Parce que c'est le problème des diffusions des techniques. Je voudrais prendre un exemple qui peut être frappant. Il y a un art bouddhique gréco-indien qui s'est constitué dans le nord-ouest de l'Inde, c'est l'art bouddhique du Gandhara. Et cet art bouddhique qui s'est constitué à la suite des influences grecques consécutives à la conquête d'Alexandre au 3e siècle avant, enfin au 4e siècle, cet art grec s'est répandu en Asie centrale, cet art bouddhique grec, d'influence grecque, s'est répandu en Asie centrale, de là en Chine du Nord, de là en Corée, de là au Japon, de Chine au Japon, si bien que dans la statuaire bouddhique japonaise du 7e siècle, on a des réminiscences de l'art grec. C'est pour vous montrer qu'en réalité, notre monde que nous imaginons cloisonné a toujours respiré, a toujours connu des voyages d'influence. Je prendrai un autre exemple. C'est le cas d'un Allemand qui s'appelait Vogler, qui a découvert à Saint-Pétersbourg, à la fin du 18e siècle, un orgue-à-bouche chinois. C'est un instrument de musique qui a cette particularité technique d'avoir une hanche libre. Et ce dispositif technique, en réalité, appartient aux civilisations de la Chine du Sud et de la péninsule indochinoise. Eh bien, c'est à partir de l'observation de ce dispositif technique que se sont créés en Europe toute la famille des harmoniums, des harmonicas, des accordéons, et si bien que les danseurs des balmusettes ne se doutent pas de ce qu'ils doivent à la Chine. Un autre exemple, c'est la variolisation. Les Chinois avaient, dès le XVIe siècle, c'était une coutume, une pratique tout à fait courante, un système de variolisation qui consistait à insérer dans la narine du patient des fragments d'une pustule dont on avait atténué la virulence, une pustule de variolique. Et c'était un moyen qui était tout à fait courant au XVIe siècle, qui est bien attesté. Ce système a été transmis dans le courant du XVIIIe siècle en Turquie, si bien qu'une Anglaise, Madame Lady Montagu, qui était la femme du résident anglais de Constantinople, a fait varioliser toute sa famille au début du XVIIIe siècle avec ce système chinois. Et c'est seulement beaucoup plus tard que Jenner a inventé le vaccin.
Le vaccin. Denis Lombard, vous voulez dire quelque chose?
C'était une autre preuve de l'expansion chinoise, peut-être pas tellement au point de vue technique, mais au point de vue commercial, disons, c'est l'importance des céramiques chinoises qu'on a trouvées en Asie du Sud-Est et jusqu'aux côtes d'Afrique. Oui. Quand on dit souvent que les Chinois arrivent actuellement en Afrique seulement, en fait, ça remonte au XIe siècle, leur présence commerciale sur cette côte.
Maintenant, messieurs, je voudrais vous poser une dernière question sur cette seconde partie de notre débat. Nous venons de voir l'avance en général du monde chinois dans le domaine des techniques. Et voilà que, au XIXe siècle, sans doute, le monde chinois participe au progrès technique. Michel Cartier vient de nous rappeler l'importance des chemins de fer sur un point précis, qui est la réanimation d'un certain commerce, exploitation du sel. Il reste que la période où l'Occident démarre en flèche, la révolution industrielle, le XIXe siècle, c'est la période qui, dans votre ouvrage, 19e, première partie du 20e siècle, s'appelle déclin et aliénation.
Oui.
Alors que se passe-t-il là?
Eh bien, je crois que le problème en général est mal posé. Il est mal posé parce qu'on oppose en bloc une civilisation qu'on ignore à une civilisation qu'on connaît très bien. Et on les oppose en bloc sans examiner la façon dont les choses se sont déroulées. Je crois qu'il faudrait remonter plus haut, n'est-ce pas? Est remonté au XVIIe siècle, XVIIe et XVIIIe siècle, avec les premiers apports occidentaux qui ont été faits par les jésuites et qu'on a beaucoup grossi. On a beaucoup grossi parce qu'on s'est imaginé que les jésuites avaient introduit la science moderne en Occident, en Chine, ce qui est absolument faux. Ils ont introduit essentiellement la scolastique médiévale et d'autre part ils ont introduit d'autre part l'astronomie de Ptolémée, enfin toutes les vieilleries de la science médiévale. Et c'est ça que les Chinois ont connu sous le nom de science moderne. Ensuite, au XIXe siècle, il s'est produit, je crois, toute une série d'événements qui ont affaibli la Chine. D'abord, il y a eu les importations d'opium qui ont eu des effets extrêmement graves sur l'économie chinoise. Et je crois aussi, ça c'est une de mes hypothèses, la dévaluation de l'argent chinois, qui était la monnaie fondamentale par rapport à l'or du commerce international. Les Chinois n'étaient pas plus bêtes que d'autres, et ils étaient fort bien capables de s'adapter à la révolution technicienne, à laquelle ils ont participé, d'ailleurs, ne l'oublions pas, ne serait-ce qu'en introduisant en Occident des idées nouvelles, en particulier celles d'ordre naturel. Jusque-là, l'Occident restait attaché à cette idée que tout ce qui était dans le monde était composé d'une machine et de son conducteur, d'un corps et d'une âme, alors que la Chine avait, de par tradition, l'idée d'une conception globale, organiciste des êtres. Et ça a été, je crois, l'influence de la Chine a été capitale sur les orientations nouvelles de l'Occident. Et la Révolution française a été en partie inspirée par des idées chinoises. C'est très curieux de le dire, mais c'est bien la réalité.
Alors, il reste déclin, aliénation. Bien entendu, je ne vais pas en deux minutes vous demander d'évoquer 100 pages de votre livre. Mais malgré tout, que s'est-il passé ? Fondamentalement.
Mais je crois que le grand problème du 19e siècle, c'est la grande crise sociale qui se situe en 1850-1860.
Ce que l'on connaît sous le nom de mouvement des Taiping, entre 1850 et disons en gros 1878, et qui vous paraît être un tournant essentiel.
Absolument.
Je crois qu'il y a tout de même deux problèmes qui sont importants. C'est d'une part que au moment où la Chine se heurte aux puissances occidentales, elle se trouve dans une situation défavorable, du fait qu'elle a eu déjà une révolution démographique au XVIIIe siècle, et deuxièmement que l'État n'est pas adapté. Dire que les structures de l'État restent des structures du début du XVIIe siècle, largement, je crois. Et donc, il y a un décalage. Mais la Chine...
Elle a grossi trop vite.
Oui, elle a grossi trop vite et elle a grossi en se ruralisant beaucoup plus.
Denis Lombard. 17e, 18e, il y a eu toute une réflexion chinoise d'ailleurs sur ces problèmes. Ils ont bien senti le péril venir, le problème démographique, les problèmes d'artisanat, d'adaptation aux nouveaux besoins. On les a souvent rapprochés justement des Lumières.
C'est ça, des physiocrates, j'y pensais, c'est là.
Des philosophes d'Occident.
Et c'est la solution n'a pas été trouvée. Des Lumières.